Avant-dernier Grand Prix de la saison en Formule 1, c'est joué du côté du championnat des pilotes, mais pas tout à fait du côté du championnat des constructeurs. C'est l'enjeu très certainement en fin de semaine dans cette bagarre entre les Mercedes et Ferrari. Retrouvons sur place notre collaborateur, champion du monde de Formule 1 lui-même, Jacques Villeneuve. Salut Jacques!
Salut!
Est-ce qu'on parle beaucoup du championnat des constructeurs au Brésil en ce moment?
Moyennement, c'est pas un championnat important. Il est important pour les budgets parce qu'il ramène des droits télé, donc des dollars qui sont produits par les droits télé. Celui qui est devant, il en prend plus, celui qui est derrière, et ainsi de suite. Par contre, médiatiquement, tout le monde s'en fiche un peu. C'est vraiment le championnat pilote qui compte. Les équipes font croire que c'est celui qui est important parce que ça montre le travail d'équipe, mais on appelle ça le championnat des perdants.
Ah oui, à ce point-là, même si c'est l'écurie qui abrite, si tu veux, le champion pilote, il n'y a pas un petit prestige à aligner les deux titres?
Oui, mais c'est vraiment secondaire. C'est par rapport au fait que Lewis Hamilton, on va dire que Mercedes est champion du monde parce que Lewis Hamilton est champion du monde, non pas parce qu'ils ont eu les points d'équipe. Donc, si Ferrari devient champion du monde constructeur, on dirait toujours, c'est Mercedes, c'est champion du monde avec Lewis Hamilton.
Oui, je te suis. Et dans ce contexte, donc, alors que le championnat du monde est déjà joué, Hamilton ayant remporté son 5e titre, qu'est-ce que tu vois comme enjeu en fin de semaine au Brésil?
Les équipes veulent aller le chercher, ce championnat, parce que ça ramène des gros dollars pour l'année, dans les budgets de l'année prochaine. Donc, il vaut la peine de toute façon de prendre. Ça reste un championnat, donc c'est toujours mieux d'aller le gagner. C'est juste que en côté de valeur par rapport au championnat pilote, ce sont des cacahuètes.
Non, je comprends. Dans ce contexte, est-ce qu'il y a des écuries qui prennent ça un peu plus lousse, celles dont la place est assurée? Comme par exemple, on voit des pilotes essayeurs qui ne sont pas des pilotes réguliers tourner dans les essais libres aujourd'hui. Ça a été le cas du Canadien Latifi notamment.
Ça dépend. Chez Sauber, par exemple, il y avait Giovinazzi. Mais pourquoi? Parce qu'il va être les pilotes titulaires pour l'année prochaine. Et donc, il doit apprendre les circuits aussi. On le prépare. Dans le cas de Latifi, non, il ne faut pas pilote titulaire l'année prochaine. De toute façon, il n'a pas de super licence. C'est juste qu'il y a eu un apport financier à l'équipe et donc il faut lui donner des tours, il faut le mettre dans l'auto. Mais mettre des pilotes en plus le vendredi matin est négatif pour l'équipe parce que ça ne permet pas à l'équipe de bien se préparer pour la course. Un pilote qui n'a pas l'habitude, qui ne roule pas, qui n'a pas l'expérience, ne peut pas faire le travail que le pilote titulaire ferait. Donc, c'est plutôt négatif pour l'équipe, à part les dollars que ça amène. Et à l'époque où ça a été signé, eh bien, Forfilière avait besoin de dollars.
Tu me disais qu'il y a même des pilotes qui profitent de ces essais-là qui n'ont pas leur licence de super pilote.
Non, ils n'ont pas de super licence pour faire de la course, mais ils ont une licence pour faire des essais. C'est est aberrant parce que le vendredi, c'est un week-end, c'est une journée officielle avec des pilotes en plus qui ont des essais. Donc là, il faudrait aussi avoir la super licence pour pouvoir rouler en même temps que les pilotes titulaires. Donc ça, c'est un peu un hic dans la réglementation, mais ça avait été mis en place pour aider les petites écuries à ramener des budgets.
Jacques, je t'ai jamais demandé ça, là, mais on a tous, les auditrices et les auditeurs à l'écoute, on a tous passé un test à un moment donné pour obtenir notre permis de conduire là pour déambuler dans les rues du Québec et d'ailleurs, mais une licence ou une super licence de pilote, contrairement à une licence de super pilote que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir ça? Ça ressemble à quoi, les tests et les épreuves? C'est du millage?
Non, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de test. Ça a changé. Hein. Pour avoir la super licence de Formule 1, il faut acquérir un certain nombre de points de licence. Et pour ça, il faut gagner le championnat de Formule 2, par exemple, ça donne 50 points. Il faut 50 points pour la super licence. Ou deux années de suite, deuxième, ça donne assez de points. Le championnat de Formule 3. Enfin, il y a des barèmes. Par contre, le championnat de Formule 1 ne donne pas assez de points. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un championnat FIA. Donc, c'est un peu, ça aussi, c'est aberrant. Le championnat de Formule 3 donne la super licence, mais pas le championnat de Formule 2, qui sont quand même des grosses voitures, c'est un gros d'Indianapolis. Donc, là, il y a un côté politique un peu FIA. Et ça permet à des pilotes médiocre mais très fortuné d'avoir de bonnes performances dans des types de catégories d'accéder à la Formule 1 alors que des pilotes très talentueux eux n'y accèdent pas. Donc le système n'est pas encore complètement au point. Il faut le perfectionner, mais à l'époque, pour avoir une licence de course automobile, il fallait avoir aussi une licence de route. Maintenant, ce n'est plus obligatoire. C'est pour ça qu'on a des pilotes de 14 ans dans des monoplaces.
Dis-moi, quand on arrive au Brésil, même si ça fait très longtemps, là, Ayrton Senna nous a quittés dans un accident en piste à Imola, en Italie, en 1994, mais est-ce qu'on sent encore beaucoup la présence ou est-ce qu'on souligne encore beaucoup la mémoire de celui qui est devenu une légende, Ayrton Senna, Jacques?
De moins en moins, bien sûr. Dans la mémoire, la première chicane, on appelle ça les S de Senna, celui qui les a dessinés. Donc, Clairement, il fait partie de l'histoire. Il a été hyper important pour le sport automobile dans ce pays. Il y a encore beaucoup de fans. Mais les années sont passées. Et puis, il y a eu d'autres pilotes brésiliens après.
Mm-hmm. Toi, quand tu regardes la fin de la saison avec le championnat des pilotes qui est joué, bon, bien sûr, un certain intérêt, mais moindre du côté des championnats des constructeurs, est-ce que tu y vois une saveur particulière à cette fin de saison, ne serait-ce que, par exemple, les fins de saison de pilotes très expérimentés comme Alonso et encore Raikkonen? Raikkonen qui va revenir l'an prochain, mais dans une écurie moins compétitive. Ou quelle saveur vois-tu à cette fin de saison d'un point de vue personnel, toi, Jacques Villeneuve?
Alonso, non, parce que ça fait trop longtemps qu'il roule à l'arrière là, dans une voiture qui n'est pas en capacité de rouler devant. La saison est longue. Hein. Ça commence en mars, ça termine fin novembre, début décembre. C'est trop long. Là. Ça commence, tout le monde est un peu tanné. Tout le monde a envie que ça se termine. Le Brésil, c'est le fun. Il y a une bonne ambiance. Il y a des fans, même si la ville, c'est un peu compliqué. Le circuit lui-même, il y a quand même des fans. Par contre, Abu Dhabi, bon, c'est un week-end qui manque un peu d'énergie.
On va ajouter des courses, semble-t-il. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui disparaîtront du calendrier. Comment tu vois l'avenir de la Formule 1, Jacques? On parle d'Hanoï et du Vietnam, notamment pour 2020.
C'est le fun. Circuit en ville, Hanoï, on n'y a jamais été. C'est pas au milieu de nulle part. Et un circuit qui ressemblerait peut-être un peu à Bakou avec une droite de 1,5 km, ça donne des bonnes courses. Donc, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant. Par contre, on parle de risques pour le Grand Prix d'Angleterre, de Grande-Bretagne, de Silverstone.
Ça serait triste de perdre le Grand Prix d'Angleterre. Si on y allait au mérite, est-ce que tu vois un Grand Prix qui peut-être n'a plus sa place sur le circuit actuellement en Formule 1?
Ah, c'est difficile à dire. Ça dépend qu'est-ce que l'on cherche dans un circuit. On cherche qu'il y ait que de l'action, on cherche qu'il y ait beaucoup de spectateurs, on cherche que ça ait une image importante comme Monaco. C'est difficile. Chacun ne veut pas les mêmes choses. Il y a certains grands prix où bon, les gens n'ont pas tellement envie d'aller, mais politiquement, c'est peut-être important. Donc là, vraiment, me positionner là-dessus, c'est dur. Il y en a certains qui sont primordiales, comme celui de Montréal. Déjà, l'Amérique du Nord, donc c'est important. C'est un beau grand prix. Il y a un enthousiasme fanatique important. C'est pareil lorsqu'on va à Monza ou qu'on était en France, à Spa. Donc, il y a un engouement. Le Japon, c'est spécial. Ici, le Brésil, c'est spécial. Il y a d'autres grands prix où on va, alors c'est comme la Chine. Tout le monde s'en fiche un peu, donc c'est un départ.
Concluons en se tournant du côté de ce qui s'est passé en piste aujourd'hui, où les Mercedes, Bottas en tête, ont été les plus rapides, sans grande surprise, Jacques.
Oui, elles sont très rapides, surtout dans le dernier secteur, là où il y a la longue ligne droite tout en montée, qui est très pénible sur les moteurs. Mais il y a des problèmes avec les gommes, hein. Que ce soit Mercedes et Ferrari, bulles leurs gommes, sursautent leurs gommes, et il y a pas mal de bulles qui arrivent. Donc, alors qu'il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas soleil, il ne faisait que 19 degrés, ce qui n'est pas chaud du tout pour le Brésil, alors qu'on se rapproche de l'été. Donc, ça peut être compliqué pour la course.
Alors, je te souhaite un bon week-end de course au Brésil et au plaisir de reparler de tout ça dès lundi, mon cher.
À lundi, merci, bye.
Merci beaucoup, Jacques. Jacques Villeneuve, donc, notre correspondant, collaborateur Formule 1, et c'est avec lui que nous complétons l'émission de ce soir. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec nous. Dans quelques instants, place à Jérémy Rainville. À bonsoir, les sportifs. Ne manquez pas le match Vegas-Canadien demain sur nos ondes. Je vous retrouve lundi soir, 18h30. Bon week-end, tout le monde. Ciao.